Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur. Troisième cassette, deuxième face, page 84. Monsieur Abel fit quelques pas encore, retourna du côté de l'épicier, s'arrêta devant la boutique et demanda la cause du tumulte et du rassemblement qu'il y voyait. « C'est un mauvais garnement, dit un badaud, un mauvais garnement qui a coiffé un des garçons d'une terrine de résinée, monsieur. Le pauvre est dans un état terrible, tout poissé, les cheveux collés, les habits abîmés.
« Oh, oh, c'est grave, ça !» dit M. Abel en entrant.
Les garçons, le maître, la dame du comptoir entouraient le malheureux Jeannot, le débarbouillaient, l'arrosaient, l'inondaient, l'épongeaient. Les garçons riaient sous cap, la dame du comptoir leur faisait de gros yeux, M. Pontois n'oubliait pas ses intérêts et gardait l'entrée afin que quelques voleurs ne pussent se glisser dans l'épicerie. Monsieur Abel commença à bavarder avec la dame du comptoir qui lui expliqua ce qui s'était passé.
Le pis de l'affaire, monsieur, c'est que les vêtements du pauvre garçon ne peuvent plus resservir et qu'il lui faudra 3 mois de gage pour les remplacer.
En vérité, ces gages, sa paye, sont donc bien misérables.
10 francs par mois, monsieur, dame. Des enfants de cet âge, ça ne sait rien, ça brise tout.
Jeannot ayant été suffisamment arrosé, dépoissé, essuyé et rhabillé avec une blouse qui ne lui allait pas, un gilet qui croisait d'un pied sur son estomac, une chemise qui en eût contenu 2 comme lui, Jeannot, disons-nous, leva les yeux et acheva de reconnaître M. Abel que sa voix lui avait déjà fait deviner à moitié.
« Monsieur le voleur !»
s'écria-t-il. L'effet produit par cette exclamation fut exactement le même que dans le café de Jean. Monsieur Pontois ferma et garda la porte. Les garçons levèrent les mains pour saisir Monsieur Abel au collet. La dame du comptoir se réfugia près de sa caisse en poussant un cri perçant. Monsieur Abel croisa les bras et resta immobile, regardant Jeannot qui d'un mot aurait pu justifier Monsieur Abel, mais qui gardait le silence et le regardait à son tour d'un air moqueur et triomphant. Les cris de la dame du comptoir attirèrent des sergents de ville. Ils se firent ouvrir la porte, s'informèrent de la cause des cris de madame. Monsieur Pontois et les garçons expliquèrent si bien l'affaire que les sergents de ville se mirent en devoir d'arrêter le voleur. Jeannot se pavanait dans son air de triomphe.
« Laissez donc, mes braves amis, dit Monsieur Abel. Je ne suis pas plus voleur que vous. Le voleur prend et moi je donne. Ainsi, vous voyez ce mauvais garnement nommé Jeannot. »
« Comment, dit Monsieur Pontois, vous connaissez Jeannot ?»«
Si je le connais, ce pleurnicheur, ce hérisson, je lui ai donné un bon déjeuner à Auray et des provisions pour sa route. Mais finissons cette plaisanterie. J'étais entré pour payer les vêtements perdus de Jeannot. Tenez, monsieur Pontois, voici 40 francs.
Ça fait à peu près 800 francs de maintenant.
Une blouse, un gilet et une chemise ne valent pas plus de 20 francs. Le reste sera pour Jeannot en compensation de l'arrosement qu'il a dû subir. Et à présent, je me retire.
« Mais monsieur, dit un sergent de ville, je ne sais pas si je dois vous laisser en liberté, car enfin ce garçon qui vous a reconnu pour un voleur ne dit rien et... »«
Et c'est le tort qu'il a, dit monsieur Abel. Je vais parler pour lui. »
Monsieur Abel raconta en peu de mots sa rencontre avec les enfants, la leçon de prudence qu'il leur avait donnée et l'ignorance où étaient ses enfants de son nom.
« Au reste, ajouta-t-il, venez m'accompagner et me tenir compagnie jusqu'au café Métis.
M-E accent aigu T-I-S. C'est le nom du café où travaillent Simon et Jean.
Vous verrez si j'y suis connu.
Les sergents de ville voulurent se retirer en faisant leurs excuses. Mais Monsieur Abel exigea qu'ils l'accompagnassent jusqu'au café. Il y fit son entrée avec cette escorte, mena ses gardiens improvisés à Simon qui, en le voyant ainsi accompagné, s'élança vers lui pour avoir des explications.
Ah ah ! Halte là, mon ami Simon, dit Monsieur Abel. Je pourrais te compromettre. Ces messieurs me prennent pour un voleur. J'ai vu Jeannot qui a crié au voleur, comme mon petit Jean, et je viens à toi pour me disculper.
Comment, sergent ? Dit Simon. Vous ne connaissez pas monsieur qui est du quartier ?
Mais je le garantis, moi. C'est un de nos habitués et j'en réponds comme de moi-même. Merci, Simon, Abel. Je me réclamerai de toi dans tous les embarras où je me mets sans cesse par amour de la farce. Sergent de ville, vous allez accepter un café.
Réponse.
Trois cafés et un flacon de cognac, cria-t-il.
Simon sortit en riant. Quand il rentra, il trouva M. Abel attablé avec les sergents de ville. Ils paraissaient tous fort contents de la fin de l'aventure. Ils savourèrent le café et le cognac jusqu'à la dernière goutte, saluèrent M. Abel en lui renouvelant leurs remerciements, et ils retournèrent à leur poste qu'ils avaient abandonné pour affaires de service. Chapitre 11. Le concert. Un matin, M. Abel trouva Jean plus agité, plus empressé que de coutume.
Il paraît qu'il y a du nouveau. Tu as l'air de vouloir éclater d'un accès de bonheur.
Je crois bien, monsieur. Il y a de quoi. Monsieur Jeannot donne une soirée, un concert. Il nous a invités, Simon et moi, et monsieur Métis, notre patron, veut bien nous permettre d'y aller.
Tant mieux, mon ami, tant mieux. De quoi t'habiller ?
Je crois bien, monsieur. Simon me prête un habit et un gilet qui sont devenus trop étroits pour lui. Et un pantalon auquel Madame Métis veut bien de 15 cm pour le mettre à ma taille.
Mais mon pauvre garçon, tu flotteras dans tes habits comme un goujon dans un baquet.
Ça ne fait rien, monsieur. Il vaut mieux être trop à l'aise que trop à l'étroit. Je m'amuserai bien tout de même, de la musique. Jugez donc, moi qui n'en ai jamais entendu. Et puis des rafraîchissements, moi qui n'en ai jamais bu. Et des échaudés, des macarons, du vin chaud.
Écoute, Jean, sais-tu que ce que tu m'en dis me fait venir l'eau à la bouche ? C'est que j'ai bien envie d'y aller. Ne pourrais-tu pas me faire inviter avec un de mes amis, Monsieur Cain ?
C-A-I-N. Mais je pense bien que oui, monsieur. Je vais demander à Simon. Dis donc, Simon, peux-tu faire inviter Monsieur Abel à la soirée de Monsieur Pontois ?
Je suis bien aise, dit Simon, que Monsieur Pontois ne demandera pas mieux, qu'il sera fort honoré d'avoir Monsieur Abel.
C'est, dit Jean, qu'il faut aussi faire inviter son ami Monsieur Cain.
Monsieur Cain, dit Simon.
Il regarda d'un air surpris Monsieur Abel, qui souriait de l'étonnement de Simon. Mais reprenant son sérieux, M. Abel dit
« Oui, Simon, mon ami Cain. Cela te paraît drôle que Cain soit l'ami d'Abel. C'est pourtant vrai. Je ne vais pas dans le monde sans lui. C'est un grand musicien. Nous faisons de la musique ensemble. »
« Bien, monsieur, dit Simon. Je donnerai réponse à monsieur demain.
Elle est facile à deviner. » C'est un grand honneur que nous fait monsieur.
Monsieur Abel, très content de l'invitation promise, questionna beaucoup Jean sur la soirée projetée, le monde qui y serait, etc. Le lendemain, Simon annonça à monsieur Abel que monsieur et madame Pontois se trouvaient fort honorés d'avoir monsieur Abel et son ami monsieur Cain, et que s'ils voulaient mettre le comble à ses bontés, ce serait de leur chanter quelque chose.
Nous verrons, répondit M. Abel d'un air assez indifférent. Peut-être, si je suis en voix.
Simon fut aussi enchanté que Jean de cette demi-promesse qu'il communiqua dès le soir même à M. et Mme Pontois. La soirée devait avoir lieu le surlendemain dimanche. À 8 heures, l'appartement de l'entresol était éclairé, illuminé à giorno. Il se composait d'une petite entrée, d'une salle ou salon avec deux fenêtres donnant sur la rue de Rivoli et d'une chambre à coucher où étaient les rafraîchissements. Deux lampes éclairaient le côté de la cheminée. Quatre bougies illuminaient le côté opposé. Une lampe de chacun des côtés restants complétait l'éclairage. Les rafraîchissements se composaient d'eau sucrée, d'eau rougie, du vin mêlé à de l'eau, de bière, de tartines de pain et de beurre, d'échaudés, de macarons, de pruneaux et raisins secs, d'amandes, de noisettes, de pâtes de réglisse et de guimauve, de sucre d'orge et de sucre candi. Les invités commençaient à arriver. Simon et Jean avaient été des premiers. Jean flottait, comme l'avait dit M. Abel, dans les habits de Simon. Et Simon, au contraire, était ficelé dans les siens, acheté depuis longtemps et avant qu'il eût pris du corps. Jeannot avait une veste, un gilet, un pantalon loués pour la soirée, mais ils étaient si heureux des plaisirs de cette réunion qu'ils ne songeaient pas à l'effet que produisaient leurs vêtements. Monsieur Abel arriva et présenta son ami Monsieur Cahin. Tous deux étaient en grande tenue de soirée. Gants paille, cravate blanche, gilet blanc, vêtements noirs. On les attendait pour commencer le concert. Quelques dames miaulèrent quelques romances, quelques messieurs hurlèrent quelques grands airs, on mangea, on but, Jean et Jeannot s'en donnaient et ne s'éloignaient pas de la table des rafraîchissements. La soirée était fort avancée et Cain et Abel n'avaient pas encore chanté.
« Monsieur !» dit Mabel. On nous avait fait espérer que vous voudriez bien leur chanter quelque chose.
Oui, madame, dit Monsieur Abel, mais je ne chante jamais seul, Cain m'accompagne toujours, et je dois vous prévenir que nous avons des voix si puissantes que, comment dire, je ne serais pas peut-être pas prudent de tenir les fenêtres fermées. Les vitres pourraient se briser.
Mais qu'à cela ne tienne, monsieur. Pour toi, mon ami, veux-tu ouvrir les fenêtres?
Comment? Pourquoi? Dit Pontois. L'explication que donna Madame Pontois courut tout le salon. La curiosité était vivement excitée. Monsieur Abel s'approcha du piano. Monsieur Cahin s'assit pour accompagner.
Au voleur, à la garde, à l'assassin,
au mégarde,
au secours. Tu périras, gredin assassin. À la garde, holà, 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 oh, 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 oh. Au secours, au secours.
Des cris du dehors répondirent aux hurlements du dedans. Monsieur et Madame Pontois, éperdus, criaient aux chanteurs d'arrêter. Les cris du dehors devenaient menaçants. Monsieur Pontois courut fermer les fenêtres. Des coups frappés à la porte d'entrée.
Ouvrez au nom de la loi!
Des ordres impérieux d'ouvrir, les cris des invités qui demandaient du silence, les hurlements obstinés de craignant une invasion par les fenêtres, se décida à ouvrir la porte d'entrée, une avalanche d'hommes, de femmes, d'enfants se précipita dans l'appartement. Le tumulte, le désordre furent à leur comble. Abel et le prétendu Cain en profitèrent pour quitter le champ de bataille et sont aux éclats de leurs chants improvisés et discordants. En arrivant dans la rue, ils arrêtèrent une escouade de sergents de ville qui accouraient au secours des victimes égorgées. Ils leur expliquèrent la cause de tout ce bruit.
« C'est une plaisanterie qui aurait pu devenir fâcheuse, » dit un des sergents de ville.
« N'est-ce pas? Ça n'a pas de bon sens !» dirent en chœur Cain et Abel. « Aussi nous avons quitté la partie. Les salons sont pleins, on y étouffe, c'est à n'y pas tenir. »
Les deux amis s'en allèrent, enchantés de leur succès.
« Je déteste les épiciers, » dit Abel.
« Pourquoi les détestes-tu » demanda Cain. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?»« Rien du tout, mais leurs airs goguenards, impertinents, leur aisance et leur sans-gêne, leur esprit et leur langage épicé, tout cela m'impatiente, et j'ai toujours envie de leur jouer des tours. Je t'assure, mon cher Abel, que tu as tort. Les épiciers sont comme les autres hommes. Il y en a de bons et il y en a de mauvais.
C'est possible, répondit Abel, mais que veux-tu, je ne les aime pas.
L'ami leva les épaules en riant et ne dit plus rien sur ce sujet. Chapitre 12. La leçon de danse. Quelque temps après, Jean dit un matin à M. Abel en lui servant son déjeuner. « Monsieur aurait-il envie d'aller au bal ?»«
Au bal ?» dit M. Abel. « Ça ne serait pas de refus. Quelle espèce de bal ? Chez qui ?»«
Oh, un très beau bal, monsieur. On dansera et Simon m'a déjà fait voir comment on dansait. Nous dansons le soir dans notre petite chambre là-haut. C'est bien amusant, monsieur. Savez-vous danser ?»«
Hélas, non !» fit M. Abel faisant semblant d'être triste. « Oh, si tu voulais me montrer comment on fait !»«
Très volontiers, monsieur. Mais où danserons-nous ?»«
Ici, entre les tables. Il n'y a personne. »«
Mais monsieur, on pourrait nous voir du dehors. »«
Et quand on nous verrait, il n'est pas défendu de danser. Quel mal y a-t-il à danser ?»«
Aucun, monsieur, certainement, mais... » Mais ce serait tout de même un peu drôle de nous voir danser tous les deux.
Bon, dit Monsieur Abel, je prends tout sur mon dos. Si on n'est pas content, c'est moi qui répondrai. Et si on rit de nous, nous nous moquerons d'eux. Allez, commençons.
Monsieur Abel se leva, se plaça au milieu du café et se mit en position. Jean se mit en face et commença à sauter, ou plutôt à ruer, en lançant ses pieds en avant, en arrière, à droite, à gauche. « Commencez donc, monsieur, dit-il. Sautez plus fort, plus haut encore, c'est bien. Lancez le pied droit, le pied gauche, en avant, en arrière, très bien. » Monsieur Abel, qui avait commencé en souriant et avec une gaucherie affectée, finit par rire et par s'animer de telle façon que les passants s'attroupèrent près des portes et fenêtres. Les croisées étaient obstruées par les têtes collées contre les vitres. Jean vit bientôt qu'il avait affaire à son maître en fait de danse. Monsieur Abel faisait des entrechats, des pirouettes, des pas mouchetés, des pas de zéphyr, des pas de basque que Jean cherchait vainement à imiter. Jean s'animait et ne se lassait pas. Monsieur Abel riait à se tordre et redoublait de vigueur, de souplesse et de légèreté. Le public du dehors applaudissait et riait. Ceux de derrière, qui ne voyaient pas, cherchaient à voir, poussant ceux de devant. La foule devint si compacte que les sergents de ville arrivèrent pour en connaître la cause. « Voyez, sergent, voyez vous-même, dit l'un des passants. Tenez, tenez, voyez donc comme le grand est leste. Le voilà qui a sauté par-dessus le petit. Et le petit qui s'essaye, le bateau, le voilà par terre. » Et la foule de rire. Les sergents de ville riaient aussi.
« Messieurs, vous encombrez le passage, dit un des sergents. « Passez, messieurs, mesdames, passez !»
Un autre sergent dit, « Il faut faire finir ces danseurs. Tant qu'ils seront là à faire leur gambade, nous ne viendrons pas à bout de la foule. Tiens, vois donc, en voici qui reviennent, et en voici d'autres qui s'arrêtent. Entre donc dans le café, Scipion, S-C-I-P-I-O-N, c'est le nom de l'autre sergent de ville, et dis-leur de finir leur gambade. » Scipion ouvrit la porte, entra, toucha son chapeau pour saluer et s'adressant à M. Abel en souriant. « Monsieur, bien fâché de vous déranger, mais je vous prie de vouloir bien vous reposer, car la foule s'est amassée, comme vous voyez, elle gêne la circulation et nous sommes obligés de faire circuler, ce qui est difficile tant que vous serez en représentation. »«
Très volontiers, mon brave sergent, dit M. Abel. Aussi bien j'en ai assez, j'ai chaud et soif. » et s'asseyant à une table. « Garçon, deux cafés et du cognac. Asseyez-vous donc, sergent, je régale. »
« Mais, monsieur, dit le sergent, mon camarade m'attend dehors. »
« Eh bien, répondit M. Abel, chassez la foule, donnez-leur des coups de pied, des coups de poing, n'importe, tapez avec tout ce qui vous tombera sous la main, et revenez avec votre camarade prendre une tasse de café et un petit verre. »
Mais monsieur, je ne sais pas si nous pourrons.
Oh, on peut toujours. C'est si vite fait d'avaler une tasse et un petit verre. Je vous attends.
Le sergent de ville sortit fort content et rentra, plus content encore, amenant son camarade. Pendant ce temps, Jean avait apporté, d'après l'ordre de M. Abel, deux autres tasses et du kirsch.
Allons, messieurs, dit M. Abel. En place, je regarde.
Le second sergent fit une exclamation de surprise.
Comment, monsieur? Encore vous?
M. Abel le regarda.
Tiens, c'est vous, sergent?
Et s'adressant au premier.
Votre camarade et moi, nous sommes de vieux amis. Il m'avait pris au collet comme voleur chez un épicier, il y a quelque temps, et je l'ai régalé d'un café.
Voleur? Voleur? Dit le premier sergent. Et tu as laissé aller, monsieur?
Oh, c'est que j'étais un voleur pour rire, dit monsieur Abel. Soyez tranquille, votre camarade est un brave des braves. Il ne manquera jamais à son devoir. Il arrêterait plutôt 10 innocents que de relâcher un seul coupable.
Les sergents riaient de bon cœur.
Monsieur est un farceur, dit le premier sergent. Mais il faut tout de même prendre garde, monsieur. Il y en a parmi nous qui n'aiment pas qu'on se moque d'eux et qui pourraient bien se mettre en colère et vous emmener au poste.
Eh bien, le grand malheur, dit monsieur Abel. Je régalerai le poste, je le saoulerai. Je lui ferai faire la manœuvre, ça serait charmant.
Et la correctionnelle au bout de tout ça, monsieur, dit le deuxième sergent.
Pour le soldat, c'est pire encore. Le cachot et le code militaire, le conseil de guerre.
Nous n'irons pas si loin, sergent, dit monsieur Abel. Je connais le règlement militaire et je connais le code et je sais jusqu'où on peut aller. Allons, au revoir, sergent. Et au café, c'est plus agréable que le poste. Et c'est toujours moi qui paye.
Les sergents remercièrent et sortirent. Ils parlèrent ensemble.
Ha ! On voudrait tous les jours avoir affaire à des gens comme cet original.
Oui, mais quel farceur ! Cette idée de nous offrir à boire. Il est beau garçon tout de même.
Je crois bien que c'est lui qui a fait l'autre soir la farce du concert chez l'épicier. D'après ce qu'en disait l'épicier, ce devait être lui.
Eh ben, quand ça serait lui, il n'y a pas grand mal. Oh, ma foi, il les a tous mis sans dessus dessous. L'épicière s'est trouvée mal. Les femmes criaient. Oh, c'était une vraie comédie.
Et assez drôle tout de même. L'épicier était en colère. Et le petit épicier qui pleurait comme un imbécile. Ah oui! Cette espèce de jocrisse qu'on appelle Jeannot.
Pendant que les sergents causaient dehors, M. Abel faisait boire à Jean une tasse de café dans laquelle il avait versé du kirsch. C'est de la liqueur de cerise. Jean avait chaud. Le café et le kirsch lui firent grand bien et surtout grand plaisir. Le café commençait à se remplir. Les habitués arrivaient.
Dis donc, Jean, demanda M. Abel, tu ne m'as pas dit chez qui nous aurions un bal?
« Oh, monsieur, c'est chez des gens très comme il faut, des marchands de meubles d'occasion, amis de monsieur Pontois, qui ont un grand appartement dans la rue Saint-Roch. »«
Oh, beau quartier, belle rue.
Oh, »« Le quartier est beau, c'est vrai, monsieur, mais je demande pardon à monsieur si je ne suis pas de son avis quant à la rue. Je ne la trouve pas belle, moi. »«
Bah, c'est que tu n'as pas de goût, mon ami. Vois donc quels avantages on y trouve. » D'un côté à l'autre de la rue, on peut se donner des poignées de main sans se déranger, tellement elle est étroite. Le soleil ne vous y gêne jamais. Dans l'été, on y a frais comme dans une cave. Il fait tellement sombre dans les appartements que les yeux s'y conservent jusqu'à 100 ans. Ce sont des avantages, de grands avantages, qu'on trouve de moins en moins dans Paris.
Jean le regardait, moitié étonné, moitié souriant.
« Vous vous moquez de moi, monsieur, dit-il enfin. »«
De toi, mon garçon, répondit monsieur Abel. »« Jamais. De la rue, je ne dis pas. C'est une sale rue que je ne voudrais pas habiter pour un empire. »« Et comment s'appelle notre Richard qui nous fera danser dimanche ?»«
Monsieur Amédée, monsieur. A-M-E accent aigu, D-E accent aigu, E. »
Un gros marchand, du haut commerce celui-là.
qui a une dame et deux jolies demoiselles. L'aînée surtout est bien bonne, bien aimable.
Et comment les connais-tu ?
Parce que Simon y va quelquefois le dimanche après vêpres, ou bien quand le café est fermé et que les Amédées ont du monde chez eux. Il m'y a mené. Oh, c'est bien beau, monsieur.
Et quel âge a la demoiselle aînée et la petite ?
L'aînée approche de 19 ans, monsieur. L'autre, 16 à 17.
Ben, l'aînée irait bien à Simon.
Oh, monsieur, Simon n'a que 23 ans. Il ne se mariera pas avant 4 ans d'ici. Il faut qu'il économise un peu d'argent pour avoir de quoi entrer en ménage. On ne lui donnera pas mademoiselle aimée sans cela.
Ah, et combien lui faut-il ?
Oh, il lui faut bien 2 à 3 000 francs, monsieur. Ça fait 40 à 60 000 francs. Mais il a maman à soutenir. Maintenant que nous voilà deux à gagner, cela ira plus vite.
Est-ce que tu ne gardes pas ce que tu gagnes ?
Ah, pour ça non, monsieur. Je donne tout à Simon qui fait comme il veut. Il envoie à maman là-dessus. Il y avait beaucoup de monde au café. Simon appela Jean pour aider au service. La conversation avec M. Abel fut interrompue. M. Abel resta encore quelque temps au café. Il regardait sans voir et il n'entendait pas ce qui se disait autour de lui. Il se retira enfin et sortit tout pensif, se dirigeant lentement vers le jardin des Tuileries où il acheva d'arranger dans sa tête l'avenir de Simon. Il faut qu'il paraisse au bal à son avantage, se dit-il, et mon petit Jean aussi. Fin de la deuxième piste de la troisième cassette, page 99, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur. Change de cassette. Thank you.